Frères et sœurs, quelle est donc la joie du Seigneur dont il est question dans la parabole que nous venons d'écouter ? Il est important pour nous de chercher en quoi elle consiste, puisqu'elle veut nous mettre sur le chemin de la joie promise par Dieu aux bons serviteurs du royaume. Cet homme qui possède beaucoup de biens, 8 talents, soit environ 48 000 journées de salaire, j'ai pris ma calculette, ça fait à peu près 132 ans de salaire journalier, cet homme les répartit, ses talents, entre ses 3 serviteurs, au moment de partir pour un long voyage. Avec cet argent, il leur donne sa confiance absolue et du temps pour faire fructifier les dons reçus, car il prend la route et ne reviendra que longtemps après, nous dit l'histoire. À son retour, il invite les 2 premiers serviteurs, bons et fidèles, à entrer dans la joie de leur Seigneur, dans sa joie. On peut comprendre que cette joie ne se limite pas à recevoir son bien avec la plus-value gagnée par ses serviteurs. C'est sa confiance qui est récompensée, avec la satisfaction de voir que ses serviteurs ont pris des initiatives, travaillé et développé le patrimoine qu'il leur avait confié. Alors cet homme, décidément très généreux, promet à ses serviteurs de leur confier encore beaucoup de biens. La perspective est celle d'une entreprise commune, une grande entreprise commune, fondée sur la confiance du maître et l'engagement tout dévoué des serviteurs. L'invitation à entrer dans la joie nous permet de comprendre alors que cette joie n'est pas celle d'un homme avide de gains matériels, mais plutôt la joie de qui peut entraîner d'autres hommes à déployer leur activité avec fruit pour développer ensemble les biens confiés. Un autre aspect de cette joie peut être déduit de l'expérience que vit le maître lui-même. Il prend le risque de partir en ayant confié ce qu'il possédait à ses serviteurs. On peut dire qu'il s'est dépouillé de ses biens et qu'il vit une forme de pauvreté, de vulnérabilité même. Lorsque ses serviteurs lui rendent leur compte, du moins ceux qui sont bons et fidèles, il apprécie d'autant plus les marques de leur honnêteté et de leur fidélité active qu'il est passé lui-même par cet état de vulnérabilité où l'avenir de ses biens et surtout du capital de confiance qu'il avait placé en eux dépendait d'eux. Il n'est pas déçu. Bien plus, il est heureux et il leur ouvre sa joie. Il les invite à entrer dans sa joie comme dans une demeure partagée, enrichie de la confiance mutuelle et des fruits abondants qu'elle porte. Si telle est la joie de cet homme de la parabole, quelle est donc la joie que Dieu éprouve auprès de ses fidèles serviteurs ? Manifestement, Jésus veut nous la révéler dans cette parabole. Au début de l'histoire, il est question d'un homme qui distribue ses biens, et à la fin, de la joie d'un Seigneur. Cette joie-là nous dit donc quelque chose de celle du Seigneur que nous servons, Dieu lui-même. On peut voir derrière l'image de cet homme à l'immense fortune, le Créateur lui-même. Certes, Dieu ne part pas en voyage, mais il a remis à l'homme et à la femme, à l'humanité, la gérance de sa création. Et d'une certaine manière, il s'est retiré pour donner du champ à leurs initiatives. Avec les biens de la création, il leur a donné aussi son amitié, tout en prenant le risque qu'ils ne la respectent pas et se laissent séduire par l'adversaire. La figure du serviteur mauvais et paresseux de la parabole est là pour illustrer cette trahison. C'est à partir de son regard mauvais et soupçonneux sur son maître que ce serviteur s'est enfermé dans sa peur et sa paresse. Vous souvenez-vous de ces paroles ? « J'ai eu peur ». Ce sont les premiers mots d'Adam à Dieu après le péché originel. Plutôt que la joie, alors c'est la colère que provoque cette attitude chez le maître de la parabole. Celui qui a travesti la confiance et la générosité de son maître en exigence implacable et en rapacité suscite lui-même sa propre perte et son rejet hors de la joie. Il s'est fermé à la bienveillance de son Seigneur. Comment pourrait-il entrer dans sa joie ? Il a refusé de se risquer à répondre, même avec l'aide du banquier, à la confiance dont il avait bénéficié. Comment pourrait-il encore conserver en dépôt quelques biens, lui qui a choisi la solitude et le retranchement ? telle est bien la condition de l'homme pécheur, au lieu du déploiement des dons reçus, leur ensevelissement dans la terre, comme dans une tombe, au lieu de la prise de risque portée par la confiance en Dieu, le repli passif et l'attentisme, au lieu de l'appel à l'aide d'autrui pour mieux faire fructifier les dons reçus, l'isolement orgueilleux et désespéré. Au terme de ce comportement, il n'y a que rejet, angoisse et solitude, autrement dit, l'enfer. Alors que la joie du Créateur est de voir l'homme porter du fruit par la gérance de sa propre vie et des dons reçus de Dieu, porter le fruit d'une communion aimante et riche dans la communauté humaine, porter du fruit et le lui présenter dans l'adoration véritable, en gage de fidélité, et c'est ce que nous faisons quand nous présentons le pain et le vin à Dieu, fruit de notre travail, fruit de ses dons à chaque Eucharistie. La joie du Père des cieux, de notre Père, c'est de voir ses enfants toujours plus riches du fruit de l'amour partagé, de la lumière de vie répandue sur ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est cette joie qui nous est promise, inépuisable et invincible. « Je vous reverrai, dit Jésus à ses disciples, à la veille de sa mort, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Frères et sœurs, nous serions bien malheureux si nous devions nous en tenir à ce point de notre compréhension de l'enseignement de Jésus, car nous le sentons bien, et la Journée mondiale des pauvres que nous célébrons aujourd'hui nous est une occasion d'en prendre conscience un peu mieux. Notre bonne volonté est courte, et trop souvent le péché prend le dessus, spécialement celui de l'indifférence envers les plus pauvres et les plus fragiles, avec le retranchement derrière des limites étroites que nous nous imposons pour ne pas être trop dérangés dans notre train de vie habituel. Alors, il faut creuser plus profondément le sens de cet évangile. Qui est le serviteur bon et fidèle? À qui Dieu le Père a-t-il tout remis ici-bas? À qui veut-il faire partager sa joie infinie? Le seul homme qui ait parfaitement répondu à cette confiance du Père des cieux est Jésus, le Fils de Dieu. Et il l'a fait pour nous, pour qu'à sa suite nous soyons capables d'une charité active, d'initiatives confiantes et libres. Jésus a servi la miséricorde du Père. Il est lui-même cette miséricorde manifestée au milieu de nous. En nous aimant jusqu'à la fin, en donnant sa vie pour les pécheurs que nous sommes, il est devenu lui-même le fruit de vie que nous recevons dans sa parole et dans son Eucharistie. Le premier, il est entré dans la joie de son Seigneur, dans la joie de Dieu son Père, au matin de Pâques. Mais il y a plus encore. Jésus n'a pas voulu vivre seul ce chemin vers la joie divine. Il s'est associé son Église, comme une épouse très aimée. Jésus ne s'est pas marié comme le commun des humains, mais il a reçu de Dieu, comme épouse, l'humanité entière, pour l'aimer, la chérir, jusqu'à la sauver de la mort et du pouvoir du mauvais. Et si l'on y regarde bien, l'Église du Christ réalise déjà la figure de la femme parfaite du livre de la Sagesse. Nous avons entendu son beau portrait dans la première lecture aujourd'hui. Elle gère la maison et les biens de son époux, cette Église. Elle donne aux pauvres, étend la main aux malheureux. Et cette Église, c'est nous, nous tous ensemble et chacun d'entre nous. Alors, en cette Journée mondiale des pauvres, qui est aussi la Journée nationale du Secours catholique, voulons-nous nous disposer à la joie de Dieu? Au-delà du don en argent que nous ferons pour soutenir le Secours catholique et son action auprès des plus pauvres, comment allons-nous servir nos frères et sœurs dans le besoin? Comment entrerons-nous en relation avec eux? La prière est la première relation, enracinée dans le cœur de Jésus. Mais il y a tant d'autres manières, à commencer par la parole respectueuse, la main tendue, le temps donné. Vous verrez sur le dépliant qui vous sera donné à la fin de cette célébration, il y a dans le diocèse d'Aix et Arles, pour 900 000 habitants environ, 710 bénévoles pour le Secours catholique. C'est beaucoup et c'est peu. Combien dans notre paroisse? Ne nous y trompons pas. Si le Christ Jésus est présent dans la personne pauvre, fragile, isolée, malade, alors le trésor de l'Église, notre trésor, ce sont ces personnes dans la nécessité. Donner de soi-même aux frères et aux sœurs plus pauvres, c'est donner à Dieu.